Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du Forum du Studio Kalangou. Au micro, Moussa Maman, journaliste et correspondant du Studio Kalangou à Agadez. Le Forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble de 8 régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios partenaires. À Agadez, vous écoutez ce Forum sur les ondes des radios Sahara FM et Nomade FM. Le Forum d'aujourd'hui a pour thème utilisation des produits chimiques dans l'exploitation de l'or dans la région d'Agadez, quelles solutions pour protéger l'écosystème? Le Niger, pays sahélien, dispose d'un sous-sol très riche en matières premières, notamment l'or. Dans la région d'Agadez, l'orpaillage est pratiqué au niveau de plusieurs sites par des Nigériens et les étrangers de manière artisanale. Dans leurs activités d'orpaillage, ils utilisent des produits nocifs comme le mercure et le cyanure comme moyen de l'extraction, et celle-ci n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, animale et aussi sur l'environnement. Du 29 au 30 avril dernier, des animaux ont été trouvés morts dans le village de Fasso, dans la commune rurale de Tabelotte. La cause était la consommation de l'eau polluée, déversée d'un site de traitement d'or d'une société étrangère de la place. Comment s'est fait l'exploitation de l'or dans la région? Quels sont les moyens utilisés? Quelles sont les conséquences sur la santé humaine, animale et environnementale de l'utilisation des produits nocifs dans l'extraction de l'or? Comment y faire face? Et quelles sont les pistes de solutions? Pour en débattre, nous avons invité Salifou Abdraman, directeur régional de Mines d'Agadez. Monsieur le directeur, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Issouf Emoud, le coordonnateur du mouvement M60D. Monsieur Issouf Emoud, bonsoir.
Bonsoir, Max.
Nous avons le colonel Mustapha Ibrahim, il est directeur régional adjoint de l'environnement d'Agadez. Bonsoir, monsieur Mustapha.
Bonsoir, monsieur Moussa.
Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Plus d'une vingtaine d'animaux, composés majoritairement de petits ruminants, ont été trouvés morts dans le village de Fasso, environ 35 km dans la commune rurale de Tabelotte, le 30 avril dernier. Selon Youssouf Houssa, il est le chef du village de Tamanetsa, situé à 3 km de Fasso. La mort de ces animaux est liée à l'utilisation de produits chimiques d'un site de traitement d'or d'une société étrangère de la place.
Les événements se sont déroulés exactement le 30 avril passé. Il s'agit des Chinois titulaires d'un permis d'exploitation qui utilisaient des produits chimiques très nocifs de l'exploitation de l'or à Fasso, près de Tamanit. L'exploitation de ces produits a entraîné la contamination des eaux dans les endroits où s'abrègent nos animaux. Au début, nous n'avions pas compris. Il a fallu le 29 et le 30 avril pour qu'on se rende compte vraiment de la situation. Ces jours-ci, au moins 24 têtes de bovins et caprins ont péri en plus d'un chameau, sans compter les autres dont les cadavres n'ont pas été identifiés. Nous demandons à ce que les exploitants soient délocalisés ou bien qu'ils sécurisent leur périmètre d'exploitation pour que nos animaux ne puissent pas entrer dans la partie contaminée.
Merci. Salifou Abdraman, directeur de mine d'Agadez. Comment est régulée l'exploitation de l'or dans la région d'Agadez?
Donc, de manière générale, l'exploitation de l'or est régulée donc, par des règlements en vigueur. Donc, notamment, essayer de suivre ce que dit la loi minière. Pratiquement, toutes les sociétés, en principe, quand l'exploitation commence, donc les procédures doivent être bien encadrées et balisées et bien suivies pour éviter que de tels événements ne puissent donc se produire. En réalité, vous savez, il y a eu un temps qu'il y a eu donc des va-et-vient entre les riverains et les détenteurs donc du permis de cette société dénommée la société minière du Sahara. Ils ont même cherché à avoir un consensus pour voir comment ils vont régler leurs problèmes à l'amiable. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus. Ils étaient partis même au niveau des juridictions. Donc, peu par après, nous, c'est là où on s'était séparés. Mais malheureusement, ils étaient repartis pour essayer de travailler sur le terrain sans pour autant chercher à prendre des dispositions adéquates pouvant permettre de sécuriser, parce qu'ils devraient en principe essayer de mettre sur place quand ils ont commencé donc cette exploitation, faire un merlon pour essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à barricader l'endroit pour éviter donc l'introduction des animaux pour essayer de boire donc cette eau qui a été contaminée. Donc je pense que c'est dommage et en principe c'est nous, à un certain moment quand on a été saisi, on s'était pas compris puisque eux-mêmes ils ont dit qu'ils n'ont pas commencé les travaux et que leur affaire était au niveau des juridictions. Donc c'est ce que j'ai pu dire avant de revenir.
Alors, vous avez une réaction suite à la découverte de ces animaux morts après consommation de ces eaux contaminées?
Bon, la réaction que c'est pour cela que j'ai dit que c'est dommage puisque il y a en principe des mesures à prendre, mais malheureusement ils n'ont pas pris dû prendre ces mesures donc pour essayer de sauvegarder et donc l'environnement de travail. Puisqu'à un certain moment, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas commencé les travaux. C'est comme si, en principe, le travail a été fait de manière clandestine et ils n'ont pas pu prendre des mesures adéquates pour essayer de sécuriser donc, les travaux, puisque c'est la loi qui l'exige.
Alors, êtes-vous au courant de l'utilisation de certaines substances chimiques nocives dans l'exploitation de l'eau?
Oui, effectivement, on est au courant, mais dans les normes, s'il y a des produits qui devraient être utilisés, entre autres comme les explosifs, donc il y a des procédures qui devraient être déclenchées puisque le propriétaire donc des permis, en principe, il y a les voies et moyens qu'il doit essayer de prendre. Il y a des endroits là où il devrait être en mesure au niveau de l'environnement minier. Par exemple, si je tiens à vous le dire, en ce qui concerne donc les explosifs, il devrait adresser une demande là-bas et à travers la demande, il met en exergue donc son dossier qu'il dépose là-bas et puis par après, quand il va essayer de fouiller de fond en comble, il voit que c'est un dossier qui est régulier. Après, ils peuvent donner maintenant le OK. Donc par rapport à ces explosifs. Mais à un certain moment, compte tenu du fait du contexte sécuritaire, donc il y a des mesures qui ont été prises puisqu'à un certain moment les choses n'étaient pas comme ce qu'elles étaient puis par avant. Ce qui fait que à un certain moment il y avait même le ministère de l'Intérieur qui suivait donc pas à pas ce processus par rapport à la délivrance de l'utilisation des explosifs. Donc des demandes au niveau donc du ministère, au niveau de l'environnement minier.
Merci. Alors, colonel Moussa Ibrahim, l'adjoint du directeur de l'environnement de la région d'Agadez, présentez-nous brièvement la situation de l'environnement de la région d'Agadez, avec surtout ses exploitations de gauche et à droite.
Voilà, donc je pense ce qu'on peut dire par rapport à la situation de l'environnement dans ce contexte de multiplication de cette exploitation de l'or. Vraiment, les conséquences sont grandes. Non seulement il y a vraiment partout, c'est des terrains décapés, partout, c'est des immondices, des tas d'argile. Il y a la pollution atmosphérique grâce à la grande quantité de poussière qui se soulève. Il y a aussi la pullulation des déchets. Il y a tellement de déchets compte tenu que c'est une grande population qui est au niveau de ces sites-là. Il y a les déchets plastiques, les bouteilles, tout un tas de déchets vraiment qui jonchent l'environnement. Et il y a aussi l'exploitation abusive des ressources, des maigres ressources naturelles si on prend le contexte d'Agadez. Vous n'êtes pas sans savoir quand il y a une population, donc cette population-là a pour satisfaire à un certain nombre de besoins, par exemple pour la cuisson. Ces miniers-là, ils utilisent le charbon qui provient de la maigre végétation de la zone, ce qui veut dire qu'il y a une exploitation abusive donc de nos maigres ressources forestières. À part cela, il y a aussi, on vient de le dire, il y a l'utilisation des produits chimiques. Des produits chimiques qui, si vraiment ils ne sont pas, il n'y a pas eu un encadrement adéquat, ils constituent un véritable danger, et non seulement pour les animaux sauvages, on vient de le voir aussi, donc pour les animaux domestiques.
Selon vous, quels sont les moyens utilisés par les orpailleurs?
Oui, les moyens là, donc ils utilisent les moyens chimiques surtout pour l'extraction de l'or.
Comme quoi?
De manière générale, il y a des cyanures, des mercures. Mais moi, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas constaté le cas. Mais avec cette mortalité donc d'animaux, on peut suspecter que des substances comme ça sont utilisées.
Donnez-nous un exemple d'un cas de dégâts.
Un cas de dégâts, voilà l'exemple palpant de Faso, voilà, suite auquel donc un certain nombre d'animaux ont été trouvés morts. Bon, jusque-là, peut-être c'est pas clarifié, mais il y a une suspicion que c'est les déchets industriels là, issus de l'extraction de l'or qui peut être incriminé, et donc comme cause de cette mortalité-là.
Merci, mon colonel. Alors, Issouf Hemoud, acteur de la société civile. La société civile a une fois pris l'initiative de sensibiliser les orpailleurs sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques.
Merci beaucoup, monsieur Moussa. En tout cas, ça s'est passé plusieurs fois, la sensibilisation. Mais ce qu'il faut retenir, dans ces deux dernières décennies, l'exploitation de l'or a beaucoup développé au Niger, plus précisément à Agadez, avec la multitude de sites. Et comme vous le savez, l'orpaillage a ses avantages et aussi ses inconvénients. Et l'inconvénient, on peut prendre l'exemple de la mort d'une vingtaine de bétails à Faso. Et cela est dit à la façon dont se développe l'orpaillage. Avant, c'était de façon traditionnelle. Maintenant, il y a des façons semi-mécanisées qui exigent à ce que les orpailleurs, pour faciliter le travail, utilisent certains produits chimiques tels que le mercure et le cyanure. Le cyanure qui est connu comme étant une substance très dangereuse, qui a la facilité de dissoudre facilement l'or pour extraire l'or dans les débris. Et cela s'est fait sans pour autant que les propriétaires des permis prennent des dispositions idoines nécessaires pour que la population soit protégée. Et l'exemple de Faso, nous, ce qu'on a appris, c'est même la dynamite qu'ils utilisent pour l'explosion des formations rocheuses, faciliter la recherche de l'or, dont l'eau a été contaminée. Et cette eau rejetée à la surface, vous ne pouvez pas empêcher les animaux de la voir parce que l'animal ne peut pas savoir que cette eau est contaminée ou pas. Donc je pense que pour arriver à cela, l'État doit exiger à ce que ses propriétaires de permis prennent des dispositions, ça ne reste que de clôturer leur site pour que les animaux et même la population n'arrivent pas à avoir accès. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a les avantages, mais n'oublions pas les inconvénients qui touchent l'écosystème en général, que ce soit l'homme, l'environnement et les animaux. Et monsieur le directeur adjoint l'avait même dit, même notre forêt est impactée parce que le charbon qu'il utilise vient de là, et sachant qu'on n'a pas ici de grandes forêts. Donc je pense que la sensibilisation de la société civile ne suffit pas. Il faut que l'État prenne des dispositions sérieuses. Le directeur de mine l'avait dit, il y a beaucoup de dispositions prises dans les cadres miniers, mais quand même qui ne sont pas respectées par les propriétaires des permis, et l'État ne fait pas grand-chose pour exiger à ce que ces propriétaires respectent les mesures.
Vous avez pris une fois l'initiative de sensibiliser?
Alors, on fait des sensibilisations à travers des conférences, débats, à travers nos messages sur les médias, mais qui sont vraiment insuffisants. Parce que là, si vous êtes face à des gens qui pensent qu'à l'intérêt et non pas à la protection de l'environnement, vous ne serez pas écouté. Mais quand même, c'est l'État qui a la responsabilité de protéger la population et aussi de protéger l'écosystème.
En visite de travail du 2 au 15 mai dans la région d'Agadez, le ministre des Mines, le commissaire colonel Ousmane Abalchi, a décidé de la suspension de la mine de Faso dans la commune de Tabelotte pour avoir pollué l'eau qui a provoqué la mort de plusieurs animaux. Comment jugez-vous cette décision?
D'abord, nous avons apprécié sa visite parce qu'il a vu de visite ce qui se passe et que tout ce que les cris de la société civile est une réalité. Et il a même décidé de la fermeture des sites de Fasso qui a engendré la mort d'une vingtaine. Ça, c'est ce qu'on connaît. Ça, c'est des choses qu'on a vues, mais on ne sait pas encore d'autres victimes. Il y a eu plusieurs victimes dont on ne connaît pas. Et je pense que c'est ce genre d'initiatives qu'il faut continuer à prendre pour vraiment protéger la population.
Merci Issouf. Dans la deuxième partie de ce forum, nous allons parler des solutions et les voies préventives pour faire face aux conséquences de l'utilisation de ces produits chimiques dans l'exploitation de l'homme. Salifou Abdraman, docteur de mine, quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour protéger l'écosystème?
Bon, les solutions à prendre pour essayer de préserver l'écosystème, c'est d'abord la sensibilisation. On est en train d'essayer de privilégier la sensibilisation sur tout ce qui va nous avantager avec la création du groupement, donc des sociétés d'orfaillage. Donc ça va nous permettre de relever les choses, la main dans la main, ensemble, pour essayer de sensibiliser les acteurs qui sont les orfailleurs. Étant entendu que beaucoup méconnaissent non seulement les textes, mais aussi méconnaissent la nocivité de ces produits qui sont utilisés. Et récemment, en visite, quelqu'un devant le ministre pour lui prouver, lui montrer comment il travaille, il a mis cette substance, donc pour essayer de montrer. Alors que, en principe, ces gens devraient être en mesure d'utiliser même les équipements de protection individuelle. Mais malheureusement, la plupart des sites, quand vous essayez de regarder, les gens ne possèdent pas ces équipements adéquats pour essayer de se protéger, puisqu'en se protégeant, on préserve sa santé et au même moment, on cherche à préserver aussi l'environnement. Et l'un des aspects aussi le plus important, c'est d'essayer donc à travers ce groupement des sociétés d'orfailleurs porter le message haut pour que à leur niveau ils essaient peut-être de mettre la pression au niveau de ces orfailleurs pour comprendre le bien fondé donc de se protéger un tant soit peu en utilisant les équipements de protection individuelle. Donc, voyez-vous, il y a d'autres, les simples gants, les masques, les bottes, ils n'essaient pas de se protéger en les portant, parce qu'on peut facilement inhaler. Donc, en inhalant, facilement ça passe, alors que c'est des produits qui sont tellement nocifs et qui, quand ça part dans la circulation sanguine, donc ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des maladies de tremblement, tout ça là, comme ce fut le cas, en donnant un exemple, celui du mercure, la maladie de Minamata, donc au Japon, là où il y avait des sites industriels là où on exploitait, on utilisait le mercure, malheureusement, c'est déversé et automatiquement, à un certain moment, ils n'ont rien compris. Il aurait fallu maintenant qu'ils prennent du temps pour comprendre avec les malformations. Donc, on arrivait à avoir au sein de la population, ils ont pu conduire donc une étude minutieuse pour comprendre que cela est dû à l'utilisation du mercure. Et ça, il y a l'environnement à travers la contamination de la nappe, puisque même s'il y a la pluie aussi peut essayer donc à travers le transport ou l'air, la pollution, tout ça là, ça peut essayer de contaminer l'environnement, le sol aussi. Mais de manière plus simple, c'est pour que le message puisse bien passer, il faudrait nécessairement à travers des comités faire passer ou bien des forums passer le message à travers la sensibilisation. C'est l'un des aspects les plus importants. Il faut d'abord sensibiliser, puisque les gens ne comprennent pas le danger lié à l'utilisation de ces produits. Un temps soit peu,
d'autres... À votre niveau, vous prenez des dispositions pour protéger l'écosystème?
Oui, effectivement, on prend des dispositions puisque...
C'est quoi?
C'est effectivement la sensibilisation. Puisque compte tenu du fait que les gens se méconnaissent les textes, ils méconnaissent également que la santé vraiment est très très primordiale pour eux. Un temps soit peu, je vais vous donner un exemple. La plupart d'entre eux qu'on est en train d'utiliser sur les différents sites, souvent quand la personne tombe malade, peut-être que lui, le patron, après un certain temps, La chose qu'il puisse se dire, c'est d'essayer d'évacuer la personne pour dire que vraiment c'est comme si il est en train de lui perdre le temps sur le site. Donc, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation.
Est-ce qu'il y a de gâte-fous sur le terrain?
Bon, vous savez, c'est de manière clandestine que la plupart des gens utilisent ces produits comme nous le disons. Sinon, par exemple, pour certaines sociétés, c'est des sociétés qui vraiment remplissent certains critères par rapport même à la protection de l'environnement, et c'est le lieu de féliciter et donc certains nos amis aussi de l'environnement qui sont en train vraiment de faire un travail de titan sur le terrain à travers la sensibilisation.
Merci. Nous avons avec nous également Moustapha Ibrahim, le directeur régional adjoint de l'environnement d'Agadez. Alors, pouvez-vous nous donner quelques mesures pour protéger l'environnement de la pollution?
Oui, je pense d'abord, je commence d'abord par la prévention. Je pense par rapport à l'activité minière en général et l'orfaillage en particulier, l'État du Niger a prévu un certain nombre de textes législatifs et réglementaires pour vraiment bien encadrer le secteur. Parce que tout le monde connaît les impacts vraiment dangereux que cette activité peut avoir. Si je prends par exemple la loi 2018-28 qui détermine les principes fondamentaux donc de l'évaluation environnementale au Niger, cette loi là donc elle a conformément à cette loi donc toute activité minière est assujettie d'une étude d'impact environnemental. Donc avant de commencer cette activité, il faut faire une étude d'impact environnemental et social. Donc, de laquelle découlera un rapport d'impact. Donc, c'est avec ce rapport-là, donc normalement, que le promoteur fait la demande d'autorisation. Donc, le certificat de conformité lui est donné par le ministère de l'Environnement au prorata ou bien sous condition d'un certain nombre de mesures qu'il doit suivre. Ou bien d'un certain nombre de mesures qu'il doit implémenter. Par exemple, je prends, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qu'il doit prévoir et mettre en œuvre. Il y a même un plan de gestion des déchets dangereux pour ce contexte de l'extraction de l'or. Donc tout ça, à l'avance, donc le promoteur doit prendre cet engagement-là. Voilà. Et selon la loi aussi, il y a même des sanctions qui sont prévues, hein. Il y a des sanctions administratives, il y a des sanctions pénales qui sont prévues. Donc vraiment sur le plan prévention, donc il y a vraiment tout un arsenal de textes qui a été prévu. Maintenant sur le plan pratique aussi, il y a normalement donc il faut contrôler la mise en œuvre de ces plans de gestion là environnemental, donc à travers des missions pour évaluer en réalité est-ce que les promoteurs sont en train de mettre en œuvre ces plans de gestion environnementale et sociale et ces plans de gestion des déchets, par exemple. Bon, ben, comme a dit le directeur de mine, mais c'est une activité, vraiment, le plus souvent, c'est de manière un peu clandestine. La majorité ne sont pas dans les règles. À quelques rares, quelques entreprises qui sont dans les règles. Donc, certains ne sont même pas bien connus, ne sont pas enregistrés. Et voilà, donc c'est surtout cela le problème. Sinon, vraiment, sur le plan législatif et réglementaire, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Si c'est respecté, normalement, on ne doit pas avoir de problème. Voilà. Par exemple, pour les substances toxiques, normalement, il y a des dispositifs qu'il doit prendre. Par exemple, la clôture du périmètre. Il faut clôturer. Ça, c'est une obligation. Il faut clôturer le périmètre. Et même pour là où on va déverser les égouts, les eaux usées, et donc là il faut construire aussi des bassins très hermétiques, très étanches, qui empêchent toute contamination donc de ces substances là par exemple à la nappe phréatique ou bien au sol. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui doivent être pris, mais bon, malheureusement le secteur est encore jusqu'à présent entre guillemets informel dans la majorité des cas, donc c'est ce qui fait que, mais sinon si tout est respecté, on ne doit vraiment pas avoir de problème normalement.
Alors, n'existe-t-il pas une alternative face à l'utilisation de produits chimiques pour protéger l'environnement?
Alternative, je pense que l'exploitation de l'or partout, bon, je sais pas, peut-être le directeur de mine va mieux répondre à la question.
D'accord, il est là.
Voilà, mais je pense d'une façon ou d'une autre, on doit utiliser ces substances chimiques, mais l'essentiel, c'est de prendre des mesures pour empêcher qu'il ait des impacts négatifs sur la santé de la population, sur l'environnement en général. C'est ça qui est important. Si vraiment on arrive à contrôler, à encadrer donc l'utilisation, je pense que ça peut passer sans problème.
Merci. Issouf Hemoud, quelle est la contribution des acteurs de la société civile pour protéger l'écosystème?
Alors, nous, ce que nous faisons, c'est d'interpeller l'État. L'État et aussi ces acteurs-là qui sont dans les domaines de l'orpaillage. Parce que ce qui a amené tous ces problèmes-là, c'est l'extraction à outrage. Les gens veulent extrêmement enlever de l'or. Parce que, n'oubliez pas, avant, si vous prenez le site de Jadot, les gens le font de façon artisanale et ça ne crée pas de problème. Vous creusez, si vous trouvez l'or, vous prenez, si vous ne trouvez pas, vous partez. Mais maintenant, là où vous avez trouvé l'or, vous prenez toute la terre pour amener à ce qu'on appelle les sites de traitement. Et c'est au niveau des sites de traitement qu'on utilise des produits chimiques qui sont très dangereux. Je vais vous prendre le cas des mercure et des cyanides. Les mercure, quand il les verse sur les minéraux, il a cette capacité d'attirer toutes les particules de l'or. Et ça donne quelque chose qu'on appelle un amalgame. Et cet amalgame-là, il est composé de l'or et du mercure dont ils ont bercé. Et pour séparer l'or du mercure, ils sont obligés de brûler cet or-là pour que le mercure s'échappe. Et quand il s'échappe sous forme de gaz toxiques. Des gaz toxiques dont si vous êtes à côté, vous allez sûrement l'expirer, ce qui va vous causer énormément de problèmes cités par les directeurs des mines. Et le cyanure, lui, il a la capacité de dissoudre l'or. Dans votre minerai, si vous les mettez, vous allez voir votre l'or séparé des minerais. Et le cyanure, c'est quelque chose qui a été utilisé même pendant le régime des nazis, où on l'utilisait pour l'extermination des masses, où on rassemble toute une population pour mettre du cyanure dans les gaz qu'ils vont respirer et il a la capacité de détruire la personne en quelques minutes. Donc vous voyez, c'est des produits qui sont très dangereux. Le cyanure qui est même utilisé comme des poisons. Souvent, il y a des sels de cyanure où on met dans la nourriture pour facilement éliminer. Et même pour l'exécution à mort, on utilise à un certain moment du cyanure. Donc moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de limiter les sites de traitement. Il y a les sites d'orpaillage où les gens partent pour creuser, avoir l'or. Mais les sites de traitement, où c'est dans la terre qu'on a eu l'or, on vient chercher aussi quelques débris de l'or. Il faut vraiment les limiter à l'échelle de la région. Pourquoi ne pas faire 2 ou 3 qui seront protégés, où on prendra des garde-fous, la direction de l'environnement et la direction des mines qui seront permanents, présents, pour vraiment encadrer les acteurs qui sont dans ce domaine de l'orpaillage. Parce que et ils ne visent que l'intérêt qu'ils vont voir. Ils s'en fichent de l'écosystème, ils s'en fichent même des notions de l'environnement et autres. Donc je pense que ce travail-là exige à ce que, heureusement, ils ont fait leur syndicat d'orpaillage. Je pense que c'est un canal très facile pour la direction des mines et de l'environnement de vraiment toucher ces gens-là pour qu'ils viennent à des meilleurs sentiments et respecter les textes prévus dans le cadre de l'exploitation de l'or. C'est le problème qu'on a eu avec l'exploitation d'uranium au niveau des Somida, où on va faire une méthode in situ qui consiste à injecter de l'acide pour extraire l'uranium. Et l'acide-là peut contaminer notre nappe. Et si on ne fait pas attention, même les cyanures et les mercures qu'on est en train de déverser dans la nature peuvent impacter les nappes qui sont à côté. Et là, les dégâts seront énormes.
Qu'est-ce que vous faites comme contribution?
Comme contribution, c'est l'interpellation. Ce que nous sommes même en train de faire, c'est ça notre contribution. Interpeller l'État, interpeller tout celui qui est dans le domaine de l'orpaillage, en penser à la nature. Parce que la nature a sa manière de répondre si nous ne la traitons pas comme il se doit. Donc, nous devons le réchauffement climatique, c'est une réponse de la nature parce que nous sommes en train d'amener cette nature à travers nos activités qui détruisent l'environnement au bout. Et voilà, le réchauffement climatique qui est une réponse à ces activités de l'homme qui détruisent la nature. Donc, nous interpellons l'État à prendre des dispositions, à prendre des agents qu'il le faut. Parce que nous, aujourd'hui, au niveau du combat de la jeunesse, nous disons que l'État manque de cadres parce que les cadres sont vieillissants et on ne fait pas de recrutement. On doit prendre des jeunes qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à aller partout au Niger où il le faut pour vraiment travailler, pour aider l'État à sauvegarder notre nature, pour aider l'État vraiment à d'abord à mettre l'État dans son droit. Parce qu'il y a beaucoup qui font cette exploitation de façon clandestine. L'État ne sait même pas ce qu'ils sont en train d'avoir. Et l'État n'est pas mis dans son droit. Et aussi aider l'État à au moins faire le travail de la protection de l'environnement, que ce soit au niveau de la direction de l'environnement ou bien ou la direction des mines. Voilà ce que la société civile est en train de faire, cette interpellation. Et nous osons espérer que nous serons écoutés par l'État à travers cette visite. Il y a beaucoup de doléances qui ont été dites au ministre des Mines et nous pensons qu'ils seront au moins... qu'ils vont travailler avec ces doléances pour mettre la population vraiment dans un cadre harmonieux où l'exploitation de l'or sera faite en atteignant les problèmes. Parce que c'est la loi de la physique. Toute mécanique produit des déchets. Dès que vous mettez dans l'extraction, creuser et autres, là, vous produisez des déchets. Maintenant, comment atteindre cela? Il faut que tout le monde s'y mette.
Merci Youssouf. Alors, avant de rentrer dans la troisième et la dernière partie, monsieur le docteur Demine, tout à l'heure, une question que je posais au docteur adjoint de l'environnement, s'il y a une alternative face à l'utilisation des produits chimiques pour protéger l'environnement.
Donc, il y a des alternatives. En principe, ceux qui utilisent les bassins, comme il vient de le dire, donc ils utilisent une grande bâche qui a un bon épaisseur. Donc, de telle sorte que maintenant, quand on fait, on met souvent, ils mettent les bâches avec un double rôle. Donc, pour éviter qu'il y ait l'infiltration donc, de l'eau de traitement pour contaminer la nappe. Et après un certain temps, il y a un endroit là où ils vont essayer de mettre les résidus jusqu'à long terme. Donc, ça ne va pas impacter sur la nappe pour la contamination. Donc, du sol. Et on est en train de chercher à expliquer aux orfailleurs donc ces mécanismes. Il y a d'autres aussi qui sont en train d'utiliser des nouvelles méthodes comme celle du charbon qui sont pour éviter les autres produits qui sont nocifs par rapport à la contamination de notre propre écosystème. Et nous osons espérer que vraiment c'est l'une des méthodes les plus donc efficientes qui puisse permettre à ce que donc les sols ne soient pas contaminés.
Merci beaucoup. Donc la troisième partie de notre forum se pose spécifiquement sur les différentes propositions pour faire face aux problèmes que l'utilisation de produits chimiques peuvent engendrer. Salif Abdrahman, on revient avec vous, docteur Demine. Est-ce qu'il y a des perspectives pour une recherche de solutions pour empêcher l'utilisation de ces produits chimiques au niveau de votre direction?
Bon, il y a des perspectives, mais il faut savoir que, à proprement parler, donc c'est la loi qui l'a autorisé. Mais on est en train de chercher à baliser, à encadrer, pour faire en sorte que on minimise les impacts en respectant les différentes procédures. Ça va permettre à ce que notre environnement soit sauvegardé. Mais le mal est que il y a, comme vient de le dire l'acteur de la société civile, dans beaucoup de sites, c'est l'exploitation clandestine qui est faite. Par rapport à cela, il serait très difficile à ce que l'on puisse contrôler le travail avec ces produits nocifs. Mais nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire de notre mieux pour essayer, d'abord, comme je l'ai dit, l'une des méthodes les plus efficaces, c'est la sensibilisation, montrer le bien fondé aux gens pour comprendre que la protection de notre environnement et notre santé donc sont vraiment les outils appropriés pour essayer de comprendre cela. Nous osons espérer que, indépendamment de ça, même l'environnement doit nous appuyer à travers donc les missions régaliennes que nous sommes en train de faire, puisque la dernière fois, il y a eu donc des missions de surveillance des différents sites miniers qui ont été initiés puisque c'était un ancien arrêté qui a été signé et ça concerne plusieurs donc ministères qui sont dans cette mission par rapport à la surveillance donc des sites, à savoir le site de Tchibarkatang, le site de Tabelot et celui du Jado. Nous avons le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, la Santé, il y a même la Justice, l'Intérieur et la Défense, pour permettre non seulement de bien sensibiliser, mais aussi de bien contrôler donc les activités sur ces différents sites d'orfraillage. Et nous remercions les orfrailleurs qui ont songé à créer le groupement donc des sociétés d'orfraillage qui va faciliter le travail de sensibilisation sur le terrain. Et il y a aussi des partenaires qui sont en train de vouloir accompagner l'État dans cette activité, à savoir récemment donc un des partenaires qui a manifesté son intérêt donc à nous accompagner et nous et l'environnement et la santé donc pour aller sur le terrain et essayer de procéder à la sensibilisation.
Merci beaucoup. Alors colonel Mustapha Ibrahim, selon vous, comment y faire face?
Comment y faire face? Moi je dis la problématique minière, c'est une problématique vraiment multidimensionnelle. Elle est multisectorielle, elle est même multi-acteur. Donc là, la solution vraiment qu'il faut, il faut une solution vraiment de même taille. Et donc il faut impliquer tous les acteurs. Vraiment, il faut le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup, il y a des lueurs d'espoir. Il y a des lueurs d'espoir. Parce que c'est un secteur qui, je dis, qui est géré par plusieurs secteurs et vraiment, c'est vraiment bien, on voit, il y a vraiment une lueur d'espoir. Ces acteurs-là, maintenant, ils commencent à vraiment, ils ont compris l'intérêt de travailler ensemble. Vous voyez, vous avez vu la fois passée quand le ministère des Mines était venu, donc à certains endroits, il est avec les agents de l'environnement, donc qui expliquent les choses dans leur secteur, donc qui profitent pour sensibiliser, pour expliquer un certain nombre de thématiques. Et de la même manière, lors de la visite en profondeur du gouverneur aussi, il est accompagné de tous les services qui sont concernés par la gestion minière et au niveau de tous les sites, donc il y a un cadre qui est créé pour permettre aux différents agents de services de sensibiliser les orpailleurs. Et comme il l'a dit, il y a aussi un certain nombre de comités qui sont maintenus, qui ont été mis en place au niveau de certains sites pour un peu créer un cadre de sensibilisation, de conscientisation des orpailleurs. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Et comment y faire face? Vraiment, moi, je pense que le grand problème, ça de prendre des dispositions que tous les secteurs concernés se mettent ensemble pour voir que la législation là qui a été élaborée pour encadrer ce secteur vraiment qui a beaucoup d'impact, donc il faut, chacun doit s'y mettre pour respecter donc pour mettre en œuvre donc cette réglementation là. Par exemple, il faut exiger toujours, par exemple, pour un promoteur, avant même de lui donner l'autorisation, il faut qu'on s'assure qu'il a sa conformité environnementale, par exemple. Parce que c'est ça l'essentiel. Donc, s'il a la conformité environnementale, ça veut dire que déjà, il s'engage à mettre en place un certain nombre de mesures qui, vraiment, si elles sont mises en œuvre, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact, mais l'impact sera total, vraiment majoritairement minimisé. Et voilà. Bon, aussi les sensibilisations, ça c'est nécessaire. Mm-hmm. Vraiment. Toujours on le fait, mais on a toujours besoin de beaucoup faire. Et comme elle a dit, il y a des acteurs qui sont déjà manifestés pour épauler. Moi je pense que c'est genre de choses qu'il faut. Donc c'est l'occasion d'appeler d'ailleurs tous les autres partenaires à emboîter le pas.
Parce que, comme je dis, c'est un secteur multi-acteur. Chacun trouve vraiment ça. Voilà, se trouve, tous les partenaires s'y trouvent dans ce secteur minier. Il y a la santé, il y a l'environnement, il y a la sécurité au travail, il y a tout, hein, tout le temps. C'est un domaine multi-acteur, hein, multi-secteur. Donc, chacun doit amener du sien, que ce soit la société civile, chacun doit amener ce sien pour voir que vraiment ces impacts-là sont ramenés à un niveau moins dommageable aux écosystèmes de notre pays.
Moi, je profite pour appeler tous les acteurs, vraiment, chacun doit contribuer. C'est un problème vraiment grandiose. Chacun doit s'impliquer pour voir que ces impacts, donc multiples sur l'environnement de façon générale, et même sur l'homme, soit atténué. Certes, l'orpaillage, c'est une source de revenus, vraiment pour l'État. Mais si on ne fait pas attention, si on compare avec les multiples impacts négatifs que cela génère, vraiment ça risque de mettre en danger notre génération future. Et nous avons un devoir intergénérationnel.
Merci, colonel Mustapha Ibrahim. Monsieur Emoud, acteur de la société civile, quelle proposition faites-vous pour y remédier?
Alors, moi, la proposition que je peux faire, en dehors de la sensibilisation, je pense que les textes doivent être respectés et que l'État doit mettre sa robe de l'État pour punir tous ceux qui ne respectent pas leur étude d'impact. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les gens font l'étude d'impact juste pour avoir la conformité, comme l'avait dit. Dès qu'ils ont la conformité, ils ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris dans l'étude d'impact. Or, il y a des engagements que vous prenez en tant que propriétaire, en tant que promoteur, qui doivent être respectés tout au long des travaux que vous allez faire. Et je pense que ça, pour ceux qui ne respectent pas ces engagements, l'État doit punir. L'exemple de Pafaso, c'est une punition qui peut être une interpellation pour les autres. Monsieur le ministre des Mines a fermé telle société parce qu'elle n'a pas respecté ses engagements. Donc ça va interpeller les autres aussi à se conformer. Et je pense qu'il faut prendre ce genre de mesures. Par exemple, ça, la mort de ce bétail-là à Faso, si c'était dans le temps de la politique, moi, je sais que ça va passer inaperçu. Parce que c'est quoi le problème? Souvent, on voit les dangers, mais on ferme les yeux. Parce qu'il y a des considérations politiques, il y a des sensibilités, il y a des états d'âme. Moi, je pense que ce qui concerne notre écosystème, parce que faut pas oublier à la génération future. Ou pas nous, à notre temps, que l'écosystème soit détruit, que va trouver nos enfants et nos petits-fils. Donc je pense que de telles dispositions doivent être prises, comme celle du ministre des Mines, que tout contrevenant se doit peut-être confisquer même les permis qui lui a donné l'autorisation de faire ces travaux-là. Je pense que ça va interpeller les autres pour que chacun se conforme. Voilà ce que nous proposons. Continuer la sensibilisation et faire en sorte que les agents soient sur le terrain. Parce que les missions dont parle monsieur le directeur des mines, c'est des missions qui se font peut-être une à deux fois par an. Et nous parlons de missions qui doivent être permanentes. Qu'un agent soit permanentement sur les sites, même si c'est 3 mois, il soit remplacé par des agents. Et donc, il faut suffisamment des agents pour que les contrôles soient permanents sur les terrains, sur les sites. Voilà ce que nous proposons.
Merci Issouf. Et nous sommes à la fin de ce forum de ce soir sur l'utilisation des produits chimiques dans l'exploitation d'or dans la région d'Agadez. Quelle solution pour protéger l'écosystème? Alors, on peut retenir, entre autres, ce que des propositions de nos participants, de nos invités, et surtout la sensibilisation doit être de mise et que les orpailleurs puissent suivre les règles de protection pour faire le travail. Et aussi, l'État aussi doit appliquer les sanctions donc pour les contrevenants. Alors, nous étions en compagnie de Salifou Abdraman, directeur régional de Mines d'Agadez. Monsieur Salifou, merci pour votre participation.
Merci.
Colonel Mustapha Ibrahim, directeur régional adjoint de l'environnement. Merci, mon colonel.
Merci.
Et Issouf Emoud, acteur de la société civile. Merci, Issouf.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous et au revoir.